J'estime que j'ai raté le coche il y a quelques années, je vais t'expliquer exactement pourquoi. Et pourquoi tu dois pas faire la même chose que moi. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Cheveux Blancs, Idées Longues, le podcast dans lequel nous parlons ensemble de la création d'entreprise, d'entrepreneuriat, la création de contenu, même quand on a 40 ans, même quand on nous dit qu'on est un petit peu foutu, mais qu'on a, nous, envie justement de partager nos connaissances, notre savoir et d'aider d'autres personnes et tout en construisant notre business, notre vie, sans attendre tranquillement la retraite dans un coin. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une erreur que j'ai faite, que j'estime avoir faite il y a quelques années. Je ne peux pas revenir dessus et en fait, je vais vous expliquer d'où elle vient, mais j'estime que j'ai raté le coche il y a quelques années. Et pourquoi ? Bah, tout simplement parce que j'ai eu peur. Parce que j'ai eu plein de peur, j'étais rempli de peur. Et ça, c'est un élément sur lequel je voulais revenir parce que je pense que c'est important. Et je pense qu'en fait, nous, avec l'âge, on est plus facilement touché par ça, en fait. Hein. Et on pourrait parler de syndrome de l'imposteur, etc. Mais je pense qu'avec l'âge, en fait, on est plus touché par ça que quand j'étais un jeune. j'aurais pas fait les choses de la même manière et que au fur et à mesure que le temps passait, cette peur ne faisait que grandir. Alors un coche que j'ai raté, j'en ai raté plusieurs. Alors on pourrait dire par exemple dans ma vie, j'avais créé un site qui s'appelait cyberbounia.net. Cyberbounia.net, c'était site d'actualité sur Clermont-Ferrand. Il faut savoir que quand je le crée, à l'époque je suis en stage à Paris, je travaille à Paris pendant quelques temps, et il n'y a à l'époque aucun site d'actualité. Les journaux en ligne n'avaient pas encore, les journaux papier n'avaient pas encore créé de site d'actualité en ligne. En fait, ça n'existait pas. Donc moi, par exemple, quand j'étais à Paris, si je voulais avoir l'actualité de Clermont-Ferrand, je ne l'avais pas. Mais ça allait même jusqu'à savoir les résultats d'images de foot, etc., hein, des trucs comme ça. Et donc, j'avais commencé par créer un site, ça s'appelait Cyberbounia, et puis dans lequel j'ai mis quelques actualités, des trucs comme ça, qui a grossi, qui a fait des... Alors, à un moment donné, quand j'étais revenu sur Clermont, en plaisantant un jour, j'avais dit avec un collègue qui m'avait aidé sur le développement de certaines fonctionnalités, je lui ai dit, si j'arrive à faire 100-120 visites par jour... on sera pas mal quand même, tout. J'ai vu qu'à Limoges, il y a un autre site, ils arrivent à vivre de ça et tout. Et en fait, pour l'anecdote, quelques temps après, le site faisait beaucoup plus. Il est monté jusqu'à 2000 par jour, des fois des pointes à 5000, etc. Même des pointes beaucoup plus hautes. Mais en fait, je n'en ai jamais vécu. J'ai gagné de l'argent avec. Par exemple, j'ai vendu de la publicité au journal, justement, à La Montagne, qui est le gros groupe de presse local. J'ai vendu de la pub. J'ai même fait un reportage sur le lancement de leur site internet, etc. J'ai eu des reportages de la télé, France 3 est venu voir et tout. J'ai même un article qui explique que dans lequel le président de La Montagne à l'époque disait qu'en fait il avait un seul concurrent sur internet, c'était Cyberbounia. Et ce qui me faisait rire à l'époque, c'est que Cyberbounia, j'étais tout seul dans le fer dans mon coin, et que La Montagne, c'est des centaines de journalistes, des commerciaux dans tous les sens, etc. Une force de frappe incroyable, et que juste avec le budget qu'ils ont mis sur le feu d'artifice pour inaugurer leur siège actuel, moi ça me faisait vivre pendant des années. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est les choses. Et puis à bout d'un moment, en fait, je me suis lassé, j'arrivais pas à développer financièrement, ça me prenait beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps, mais j'étais accrédité presse, j'étais invité sur sur toutes les conférences de presse, j'ai vu plein d'événements, etc. et tout. Mais le site est mort, et puis même maintenant vous pouvez regarder, le site n'existe plus, j'ai encore les noms de domaine, j'ai encore les adresses mail qui vont avec, etc., j'ai encore le compte Instagram, le Twitter, enfin un truc comme ça, mais je ne fais rien dessus. Des fois je me pose la question, je me dis, tiens, qu'est-ce que tu pourrais faire, est-ce que tu relançais, tu pourrais faire un podcast maintenant que tu maîtrises les podcasts avec des gens locaux et tout, mais en fait je n'en ai pas envie. Donc c'est un projet qui est mort. Mais c'est pas le seul coche que j'ai raté comme ça. Et l'autre, par exemple, je vais parler de votre coach web. Le podcast que vous écoutez dans sa première version s'appelait Votre Coach Web. Je l'ai lancé en 2017. Et en 2017, il faut dire un truc, c'est que bon, on était beaucoup moins de podcasteurs, il y a beaucoup moins de monde. Moi, ça faisait un bout de temps que je regardais, parce que en fait, il y a 10 ans avant déjà, je crois que 10 ans avant. Ou au moins quelques années avant, j'avais déjà acheté un livre, il faut que je regarde dans mes archives, mais j'avais déjà acheté un livre sur le podcasting, comment lancer ça, etc. C'était au moment où Apple avait mis la première couche en fait autour du podcast. Et puis moi j'avais laissé passer, la première vague. Et puis quand la deuxième vague, j'ai senti qu'elle arrivait, j'ai dit, bah tiens, je vais lancer un podcast en fait sur la création de contenu, sur le marketing en ligne et autres, donc qui s'appelait Votre Coach Web. Comme je connaissais rien, il fait que j'apprenne vite, j'ai fait un épisode par jour. Et en fait, j'étais l'un des seuls dans le domaine, parmi les premiers en fait dans le domaine. Et puis, je me suis retrouvé numéro 1 à la catégorie marketing sur Apple Podcast. Et donc, il s'est développé. Sauf qu'en fait, la caractéristique, c'est que votre coach web ne me rapportait aucun argent. 0 euro. 0, rien du tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je ne monétisais pas l'audience que j'avais créée. C'est-à-dire que j'avais des milliers d'écoutes par mois. Et moi, j'ai attendu quoi? J'ai attendu de me dire, bah tiens, est-ce que je pourrais avoir un modèle que j'ai connu sur Cyberbounia? Parce que sur Cyberbounia, j'avais un modèle publicitaire qui, à un moment donné, rapportait un petit peu. Hein. Enfin, j'ai vendu de la pub à la montagne, j'ai vendu... Il y a eu un mois où j'avais fait peut-être 1500 euros de pub sur juste une page, etc. Sur mon blog aussi, ça m'est arrivé. Un coup aussi, un coup fumeux qui avait permis de payer deux ordinateurs. Enfin voilà, il y a des trucs comme ça. Ça me permet d'acheter du matériel, matériel photo, matériel vidéo. Vient beaucoup de cette époque-là aussi, des trucs de développement de ce type-là. Mais sur votre coach web, en fait, je ne gagnais rien du tout. Donc j'attendais que la pub arrive, la pub n'arrivait pas. Et donc à un moment donné, je me suis mis à vouloir me dire, il faudrait peut-être que je change un petit peu de méthode. Et je m'étais dit, je pourrais vendre des formations en ligne. Et la logique à l'époque, je me disais, ben, pour vendre des formations en ligne, il me faut une audience. Pour avoir une audience, ben, il faut que je travaille, que je crée des contenus, que je diffuse ça, etc. Je n'ai pas assez d'audience pour créer une formation en ligne, donc je ne peux pas créer ma formation en ligne, il faut d'abord que je développe l'audience, etc. Ce qui fait que j'ai attendu quand même peut-être 18 mois avant de lancer ma première formation en ligne. Et que ces 18 mois, en fait, ils ont été remplis de quoi ? C'était de la pure procrastination, quoi. Pure procrastination. Parce qu'en fait, cette procrastination venait de ma peur. Ma peur de vendre, ma peur de ne pas être assez bon, de décevoir, de peur de décevoir qui, d'ailleurs, c'est la grande question que je vais me poser après. Peur de passer pour un escroc aussi, en me disant, bah oui, mais attends, ce truc-là, je peux l'expliquer dans le podcast. J'en ai déjà expliqué une partie dans le podcast. Si maintenant, je fais une formation pour vendre ça, clairement, les gens ils vont acheter un truc mais qui sert à rien puisque je l'ai déjà expliqué en partie, parce qu'on peut le trouver facilement sur internet, parce que c'est trop facile, c'est trop facile, tout le monde le sait, tout ça. Donc j'avais cette peur, toute cette peur et tout, et donc cette peur a généré finalement des freins et de la procrastination. Et la procrastination, souvent on peut la regarder sous toutes les formes qu'on peut avoir. Souvent, la procrastination sur un sujet vient de la peur. La peur de ne pas y arriver, la peur de décevoir quelqu'un à qui on doit donner le travail qu'on doit faire, par exemple. La peur d'avoir un mauvais retour. Si, par exemple, vous procrastinez sur « j'ose pas envoyer un mail à quelqu'un à qui je veux proposer, par exemple, de travailler pour lui », bah, c'est que vous avez peur qu'il vous réponde non, en fait. Si vous avez vraiment envie de travailler pour lui et que vous hésitez, tant qu'il ne vous l'avez pas envoyé le mail, il n'a aucune chance de répondre. Donc, vous gardez en tête l'idée que vous pouvez le faire. Mais comme vous tentez jamais votre chance, vous pourrez jamais le faire. Et finalement, vous attendez quoi? Que ça vienne de lui, peut-être, de cette personne-là. Donc, quelque part, en fait, la procrastination est une protection. C'est une protection de quoi? De notre ego. En fait, c'est une protection de notre ego parce que on se dit, si je vends, alors, et je peux le reprendre, hein, les éléments. J'ai peur de vendre. Peur de vendre, de vendre, ça veut dire que l'action de vendre, c'est préparer un produit, c'est préparer une offre, et encore, on peut faire de la prévente comme j'ai fait la semaine dernière. Donc préparer le produit que s'il marche bien. Donc c'est imaginer une offre qui va aider des personnes et donc la mettre en ligne et en parler à des gens. Si quelqu'un achète, on est content. Si personne n'achète, eh ben on n'est pas content. Et là on se dit mais ça sert à rien, je suis pas bon, etc. Et donc là on est sur une question d'ego, c'est-à-dire qu'on se voyait sur je pense que je pouvais vendre des choses, etc. à je ne vends pas. Donc il y a une différence entre ce que j'espérais et ce qui se passe. Donc grosse différence dans l'ego. Donc ça ne marche pas. Peur de ne pas être assez bon. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire qu'en fait, on estime qu'on doit faire quelque chose, par exemple un produit qui doit avoir un certain niveau, et qu'on n'aura pas à le faire. Et bon là, on va toucher aussi à des aspects comme le perfectionnisme, comme peut-être aussi la comparaison, dire bah tiens, telle personne dans le marché fait telle chose, moi je veux faire une formation du même niveau, je veux faire la même chose, je veux faire mieux. Ce qu'il fait lui, je voudrais pas le faire, donc je vois, je voudrais faire mieux. J'ai eu plein de cas par exemple, comme ça j'ai vu des gens qui font des formations en ligne sur les formats, j'en avais acheté une ou deux, j'ai dit mais franchement ce qu'il met dedans, c'est pas terrible, pourquoi il en vend autant, je peux faire mieux. Je peux faire mieux. Bon, il se trouve que par exemple, certaines des personnes que j'avais vues, Bah, eux, ils vendent des milliers et des milliers d'euros de formation par jour pour certains, et en tout cas par mois, et que moi, à côté de ça, j'en vends beaucoup moins. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai laissé passer beaucoup de temps, j'ai laissé passer des mois et des mois dans lesquels je n'ai rien fait, et ensuite j'ai passé des mois et des mois et des mois encore dans lesquels je ronchonnais parce que ma première formation n'a pas marché. Et donc, en me disant, si la première n'a pas marché, pourquoi j'en ferai une deuxième et pourquoi les gens n'aiment pas ça, etc. Voilà, donc je ronchonnais. Je suis très honnête hein, dans ce podcast, je le dis très clairement, il y avait ce côté-là. Et donc j'avais fini par dire, même d'ailleurs, bon, c'est pas pour moi ce domaine-là et pas pour moi, il faut que je change de domaine. Bon, avant d'aller là-dessus, on va quand même voir les autres peurs que j'avais. Peur de décevoir, c'était un peu la peur de ne pas être assez bon, c'est un peu lié aussi. C'était finalement de se dire, bon ben, je fais quelque chose et je vais avoir des retours négatifs. Et en fait, c'est de me dire, bah tiens, je vais faire cette formation-là, et les gens vont me faire des retours négatifs. Il se trouve que c'est la première formation que je fais, 30 jours pour devenir un meilleur créateur de contenu. Les quelques personnes qui achètent, déjà il y a une personne qui dit, ah bah ça y est, enfin tu la lances. Donc finalement, c'est attendu. Une personne a mis un commentaire, dit, j'ai beau avoir écouté des centaines d'épisodes de votre coach web, j'ai encore appris des trucs. Donc ça veut dire que ma peur de vendre un truc que les gens avaient déjà écouté s'est estompée. Et puis j'ai eu des commentaires dire oui c'est aussi bon etc qu'on attendait donc le assez bon finalement c'est estompé et la peur de décevoir c'est estompé aussi et finalement en fait j'avais une grosse peur qui était de décevoir les autres personnes mais aussi de peut-être me décevoir moi-même là encore on parle d'ego et puis la peur de passer pour un escroc c'est quoi c'était de dire bah finalement si je vends un truc cher bah ça est-ce que ça vaut l'argent qu'il y a dedans est-ce que c'est assez bon est-ce que je vais pas décevoir etc pour vendre il faudrait que j'utilise quelques méthodes un petit peu limite avec des biais psychologiques, des biais cognitifs, etc. pour vendre plus facilement. Et notamment, il y a on le sait, il y a des choses, par exemple la rareté qui peut être créée par une offre qui apparaît, qui disparaît, la rareté du prix. On peut jouer sur le marketing de la peur, on peut jouer sur plein de choses. Mais bon, bah, il se trouve que je me disais ouais, quand même, c'est pas terrible de faire ça, c'est pas bien, on va tromper les gens, enfin je vais tromper les gens, c'est pas on, c'est je vais tromper les gens, ils ont l'impression que je vais leur mettre la pression, etc. et tout. Bon, il se trouve que la réalité des choses, c'est que nous, quand on fait ça, on a notre procrastination à battre, c'est-à-dire de dire je vais lancer les choses et je vais pas attendre, 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 attendre. Mais en même temps, on doit lutter la procrastination de nos clients potentiels. En disant, il faut leur donner une raison d'acheter. Et sinon, s'ils n'ont pas une raison d'acheter maintenant, ils vont la repousser en permanence. Et c'est pour ça que toutes les offres que vous voyez sur Internet, il y a toujours ce phénomène de rareté qui est créé soit par une offre qui apparaît, qui disparaît, soit par un système de cohorte. C'est la cohorte s'ouvre pendant un mois et puis après vous pouvez plus participer. Soit par une offre sur le prix, offre de lancement, 30%, 40%, 50% au lancement, etc. Soit une combinaison de tout ça, et on pourra en rajouter d'autres, hein. Ça peut être des bonus qui apparaissent, qui disparaissent. Si vous achetez la formation pendant cette semaine, vous aurez la deuxième formation en cadeau seulement, tac. Si les 10 premiers qui achètent ça auront un cadeau en plus. Enfin voilà, on peut jouer sur la rareté, sur plein de choses, hein. Finalement, la rareté peut jouer sur plein de choses. Et en fait, il faut se dire que dans ce cadre-là, qu'est-ce qui se passe? On a le sentiment, on peut avoir le sentiment, peut-être que tu peux avoir le sentiment que bah, en faisant ça, tu mets pression sur les personnes, que c'est pas très cool, que c'est pas très honnête, etc. Et donc, là encore, ton ego, tu froisses un peu ton ego en disant, moi je veux être une belle personne, je veux être une bonne personne, etc. Et il y a des anciens épisodes, je l'ai dit, ce truc-là. Et donc, appliquer ces méthodes-là, j'ai pas envie de le faire, ça marche pas, etc. Et il y a quelques personnes pour lesquelles, il faut le dire, hein, des offres Evergreen qui ont pas ces tarifs-là, qui ont pas cette pression, qui ont pas ça. Ça fonctionne, hein, je l'ai vu, il y a quelques personnes pour lesquelles ça fonctionne. Mais j'ai aussi vu que bah, finalement, quand on ne fait pas certaines stratégies comme ça, il y a des trucs qui ne marchent pas. Je peux revenir sur, par exemple, mon bootcamp. Probablement mon bootcamp, si j'avais cru vraiment jusqu'au bout, si j'avais mis une date. Alors lui, il avait la rareté en plus, mon bootcamp. C'est-à-dire que sans avoir des ficelles plus grosses ou quoi que ce soit, la rareté était là parce qu'il y avait une date de lancement du bootcamp. Donc, mon bootcamp, si je l'avais lancé, si j'étais au bout du lancement, j'avais une date de rareté en disant on commence mi-octobre. Donc, la rareté, c'est après ça disparaît. Donc, la rareté existait. J'avais juste en fait à rappeler régulièrement, voici les bénéfices. Voici pourquoi, si tu rates le cash maintenant, bah, derrière, tu ne pourras pas le faire parce que ça sera fini, qu'il n'y aura plus ça, etc. Donc là, j'avais la rareté. Je veux dire que j'ai même pas besoin d'utiliser une ficelle qui était de dire, je fais un prix qui est plus gros, je le divise par deux, enfin, ou quoi que ce soit. Mais Sur beaucoup de ventes, sur beaucoup de stratégies, j'ai acheté des formations, j'ai acheté des bouquins. L'autre jour encore, j'ai regardé dans mes étagères, j'avais le livre, par exemple, Cash Advertising, avec beaucoup de conseils qui sont très intéressants. Et il y a beaucoup d'aspects qui jouent là-dessus. Et puis, j'avais lu aussi le livre de Cialdini, qui est sur la persuasion. Et le livre de Cialdini sur la persuasion, c'est un petit peu quand même quand on le regarde, et je sais que j'avais lu un jour quelqu'un qui avait dit, une fois que vous avez lu ce livre, vous avez compris comment vous vous faites avoir par tous les marketeurs. Et c'est vrai qu'en fait, le livre de Cialdini, il explique les ressorts de la vente, les ressorts de comment persuader quelqu'un d'acheter un produit, etc. Et comment on va conditionner un petit peu son esprit, j'ai envie de dire, pour qu'il nous fasse confiance avec des biais comme la réciprocité, par exemple, mais qui sont utilisés par tellement de gens. C'est-à-dire que dans la rue, je ne sais plus quel autre jour, quel ONG, alors je sais pas, peut-être les Greenpeace, les gens comme ça, et ils tendent un stylo en signant un papier, et puis ils donnent, bah, garde le stylo, c'est un petit cadeau. Ah bah oui, ils m'ont fait un cadeau, faut que j'écoute ce qu'ils me racontent. Donc c'est de la réciprocité. Cialdini en parle, donc les ONG aussi l'expliquent. Donc il y a un moment donné, c'est que ça marche aussi, ça marche de tout là-dessus. Et donc finalement, bah, mon ego m'a éloigné en disant, bah non, ça je peux pas le faire, ça je peux pas faire, ça je peux pas faire. Et donc finalement, je me suis retrouvé dans une situation où bah, je me suis dit, bah, à quoi ça sert que je fasse votre coach web? J'ai mis moins d'énergie, j'ai réduit la publication, j'ai réduit des choses, j'ai moins parlé de mon truc, etc. Finalement, bah, il a fini par dégringoler, par disparaître et tout. Et maintenant, l'autre jour, en fait, si je fais l'épisode, si je me suis fait la remarque, j'écoute par exemple des podcasts et tout qui disaient, moi, j'ai créé mon podcast sur ce sujet-là, j'étais le premier, j'étais la première personne, il n'y a personne qui faisait ça, etc. Et qui dit en telle année j'ai fait ça, et puis je regarde et je dis mais moi j'avais déjà 400 épisodes, enfin pas 400, à ce moment-là on va dire 200 épisodes parce qu'il y avait plus d'un an, donc j'avais fait la première année complète, 165 premiers épisodes en quotidien, plus ça et tout, et j'avais au moins 200 épisodes quand l'autre podcast s'est lancé. Et donc j'entends la personne qui débarque en disant ah oui, mais moi j'étais la première personne et tout, personne n'existait dans ce domaine-là du podcast, etc. et tout. Et je lui dis bon, si la personne a fait un peu un benchmarking, bah si j'étais là en fait. Bah si, forcément, tu l'as vu, c'était moi qui étais en premier là dans la catégorie dans laquelle tu t'es inscrit. Ou alors aussi, ça me rappelle aussi un autre truc. Je suis pas aigri en fait parce que c'est ma faute. Hein. Je critique pas les gens qui le font parce que dire on est les premiers à l'avoir fait, etc. et tout. Voilà, c'est ça. C'est le jeu. Voilà, c'est le jeu. C'est comme dans d'autres domaines, on est le premier podcast à avoir fait ça. Bah non, il existait d'autres podcasts, mais c'est vrai que sur la visibilité, sur des choses comme ça, voilà, il y a des gens qui arrivent à être plus visibles et qui peuvent se dire, on a été les premiers à être aussi visibles, on est les premiers à faire ça, à être démocratisé, etc. Et un autre créateur de contenu, à un moment donné, s'est venu se positionner sur la même axe sur lequel je me suis positionné. Et notamment votre coach web, il y a un moment donné, j'avais fait mon site internet était beaucoup axé sur le développement de la marque personnelle. Votre coach web était sur le développement d'une marque personnelle. Pourquoi c'est important d'avoir une marque personnelle? Et je le dis très clairement, hein, le message, il est encore là. C'est-à-dire que si vous avez envie de créer du contenu en ligne, si vous avez envie de développer une marque, si vous avez envie de vendre quoi que ce soit du coaching, que ce soit du soin, enfin du service ou un type de soin aux personnes, etc. Que ce soit des formations en ligne, que ce soit du freelancing, que ce soit du contenu en ligne, quoi que ce soit, tout se développe, tout se développe sur la marque personnelle. C'est-à-dire que moi, ce qui est le plus mon meilleur acquis, ce qui est le plus fort pour moi, c'est finalement d'avoir la marque personnelle autour de Kimet 42, autour de ce que je fais, qui s'est développée, qui me permet aussi d'aller développer sur d'autres sujets, en disant, bah tiens, puisque t'aimes bien ce que je fais dans ce domaine-là, tu peux aller voir dans tel domaine. Et c'est comme ça, ce qui explique qu'après avoir lancé un podcast, je peux en lancer un deuxième dans une autre thématique, que je peux en lancer un troisième sur des thématiques proches, etc. Mais que les personnes qui sont intéressées par cette thématique-là, et ensuite je peux aller bifurquer sur d'autres thématiques, j'aurai des personnes dans la première masse de personnes d'audience qui seront intéressées par mes nouvelles thématiques si je veux y aller. La preuve, c'est que peut-être tu as découvert ce podcast en écoutant, en m'ayant suivi sur Instagram, en m'ayant écouté Kilomètre 42, en t'étant rendu compte que je faisais d'autres choses à côté, et que peut-être que ce que je fais d'un côté t'intéresse de se demander comment tu pourrais faire toi aussi et que tu débarques sur ce podcast ici. Bref, tout ça, c'est pour dire que la marque personnelle, pour moi, c'est ce qu'on développe le plus. Et donc, sur votre coach web, pendant très longtemps, j'avais une phrase sur le développement de la marque personnelle, sur l'importance de la marque personnelle, etc. Faut que je retrouve. J'avais des trucs comme ça. Et un jour, et donc il y a un créateur quelqu'un qui se lance dans le domaine, qui n'était pas du tout dans ce domaine-là, qui se lance dans ce domaine-là, et qui arrive là-dedans et qui dit moi j'ai inventé un métier, c'est un métier pour aider les gens à créer leur marque personnelle. et qui le dit, mais très franco, en fait. En plus, il le dit vraiment franco là-dedans. Il dit, bah, moi, voilà, j'invente un nouveau métier, là-dedans. Et moi, j'avais ce truc-là et tout. Et en fait, je l'avais même, pour anecdote, je l'avais même invité dans le podcast en disant, bah, tiens, je t'invite très bien dans le podcast pour que tu me parles, en fait, de ton changement, pourquoi tu changes de domaine, pourquoi tu, comment tu évolues, comment tu as décidé de quitter tes petits métiers pour aller sur tes petits métiers, etc. Donc, cet aspect de la reconversion un petit peu qu'il y avait là-dedans. Et il m'avait répondu un truc du style en disant, bah, non, je vais pas venir sur ton podcast, c'est gentil, mais tu sais, on est un peu concurrent quand même. Ah, bah oui. Et donc, en fait, ce qui était amusant, c'est que moi, qui avais cette phrase-là depuis très longtemps sur mon site, lui, il débarque, il sait qu'il est concurrent et tout, mais lui, il y va, en fait, plein de bourre, en disant, j'invente ce métier-là, etc. Alors, est-ce qu'il le savait avant, est-ce qu'il le savait pas avant, je n'en sais rien. Toujours est-il que lui, il a avancé plein de bourre sur le truc-là, pendant que moi, j'attendais, et je me refondais en me disant, ouais, mais alors lui, il a fait ça, moi, j'étais avant, etc. et tout. Bref. Ma procrastination due à mes peurs m'a fait rater le coche. Là aussi, m'a fait rater tout un tas d'opportunités que je n'ai pas su saisir, que je n'ai pas développé. Pourquoi ? Parce que j'avais les peurs. Alors maintenant, pourquoi je t'ai raconté tout ça ? Ben pour que tu fasses pas la même erreur, bien entendu. C'est-à-dire que le but du jeu de ce podcast, c'est que tu évites de faire des erreurs, que tu gagnes beaucoup de temps. C'est aussi le but de mes formations, de mes coachings, etc. C'est-à-dire que toutes les erreurs que j'ai faites et qui m'ont fait perdre des années, ben que toi, tu les fasses pas et que tu y ailles directement, que tu prennes le raccourci. Au lieu que tu traverses la rivière à la nage, je voudrais te construire un pont, en fait. C'est l'idée. Ou alors mettre des cailloux et te dire sur quel pied mettre le caillou. Sur quel caillou mettre le pied, plutôt. Excuse-moi. Donc, sur l'idée, comme ça, ce que je voulais te dire, c'est que moi, je parle, tu vois, ce podcast, c'est plus de 600 épisodes, bientôt 700 et tout. Ça fait 6 ans que ce podcast est lancé et tout. Si vraiment j'étais allé au bout de ma logique, qu'est-ce que j'aurais dû faire au départ? Pas de ma logique, si j'avais changé ma logique. Et si j'avais la logique que j'ai maintenant, qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Qu'est-ce que j'ai appris ? Ben, j'ai un truc essentiel que j'avais entendu chez d'autres, mais que je voulais pas trop croire, trop appliquer, parce que pour moi, c'était pas ma vision des choses, parce que moi, je venais d'un monde un peu où aussi on était sur faut développer de l'audience, faut qu'on ait de l'audience, on peut vendre de l'audience, etc. C'est pas de vendre. En fait, je suis toujours sur ce modèle-là, parce que la publicité, c'est quoi ? Est une grande partie de mon business actuel, la publicité sur les podcasts. Mais je suis... plutôt sur dire que il y a plus rapide que la publicité, et il y a quelque chose qui dépend moins de nous, c'est finalement de vendre nos compétences et notre capacité à aider quelqu'un. Et il y a une phrase qui est importante à retenir, en fait, qui est une démarche qui est simple à retenir, c'est de se dire qu'en fait, quand on vend des produits, des services, des choses qui aident d'autres personnes, en fait, plus on arrive à les vendre, plus on arrive à les aider. Et plus, en fait, on arrive à développer notre propre activité. Et donc, la peur qu'on peut avoir de dire « je ne suis pas assez bon, je ne vais pas aider, je vais décevoir, je vais passer pour un escroc », en fait, on doit la combattre en se disant que, bah, finalement, on veut vraiment apporter quelque chose aux gens, les aider, leur apporter de l'aide, leur montrer qu'ils peuvent le faire, etc. À partir de là, si tu le fais avec cette sincérité-là, il y a une grande peur que tu dois mettre de côté. Et tu peux te dire, à partir de là, si sincèrement je pense que je peux les aider, et que je le fais avec sincérité, que je mets tous les outils, que je mets tous les moyens, etc., que je me contente pas de faire une page de vente pour vendre du vide, en fait, parce que c'est ça, en fait, le côté escroc qu'on pouvait avoir, c'est de se dire, on peut faire une belle page de vente, faire plein de promesses, mais quand les gens ont acheté, la promesse n'est pas tenue. Pour éviter d'avoir ça, pour éviter de décevoir, pour éviter de paraître pas assez bon, et pour enlever cette peur de vendre en disant « je vends du vide », bah tu vends pas du vide, en fait. Tu vends quelque chose qui a du vrai contenu, tes vraies connaissances, ton expérience. Et là, je reviens sur des premiers épisodes que j'ai fait dans le début de cette nouvelle saison, de cette évolution de ce podcast, qui est clairement de dire, tu reprends, en fait, bah, ton expérience, tes compétences, ce que tu sais, ce que tu vas apporter, sur quoi tu as travaillé depuis des années peut-être, ce qui te passionne depuis des années, sur quoi tu as vraiment envie d'aider les gens et que sur quoi tu as vraiment des compétences, c'est-à-dire que tu t'inventes pas une compétence parce qu'elle est à la mode, tu prends une compétence parce que tu la connais. Moi, par exemple, on pourrait dire l'immobilier est à la mode, l'investissement est à la mode. Mais si je me mettais à te vendre des conseils en immobilier, alors que je n'ai aucun bien immobilier mis à part la maison dans laquelle j'habite mais que je fais pas de location, ou que je commence à parler d'investissement alors que j'ai investi quelques euros dans des cryptos qu'il faut que je finisse par récupérer un jour, voilà, je n'ai aucun conseil à te donner. C'est-à-dire que là, je suis un escroc et je peux te faire la page de vente, hein, de, hein, comment investir là-dedans, comment faire ci, etc. Je pourrais même trouver, acheter 3 bouquins, te faire un bout de contenu, mais je serais très clairement un escroc. Si maintenant, je veux te vendre un programme d'accompagnement ou une formation sur le podcasting, si je prends clairement les choses, si je les pose, etc., je pourrais dire, j'ai fait 1200, 1300 épisodes de podcast, ça fait des années que je fais du podcast, j'ai enregistré des centaines d'interviews, très clairement, j'ai généré des milliers d'euros de sponsoring du podcast. L'autre jour, j'ai fait le bilan avec de mes régies pub, et le chiffre était par exemple à 30 000 euros de pub vendue avec une seule des régies pub qui m'accompagne, donc 30 000 de facturation, hein, qui rentrent dans ma poche. Eux, ils ont vendu plus, hein. Donc ça veut dire que sur le podcast, il y a ça. Si je faisais juste la liste des sponsors, de, par exemple, de Kilomètre 42, je pourrais te dire Nike, Adidas, North Face, Dacia, Airbnb, voilà quoi. Ça, j'ai envie de dire, quand je pose les noms, quand je dis je suis un podcast de running, et dans mon podcast de running, j'ai eu Nike, Adidas, The North Face, Dacia qui est sponsor du TMB, ça pose le jeu quand même en disant ça, voilà, et je peux t'expliquer comment j'ai fait, comment j'ai développé, comment je fais pour avoir la régularité, pour publier un épisode par semaine sur chaque podcast, voire 2 épisodes par semaine sur chaque podcast, voire 3 épisodes par semaine sur chaque podcast, comment me suis organisé, comment j'ai créé l'audience, comment j'ai développé mon compte Instagram pour le faire, comment mon compte Instagram aide à gagner des gens, comment j'utilise à gagner des abonnés, comment, tout ça je peux te l'expliquer, je peux y aller les yeux fermés, tu vois, ça veut pas dire que si je fais une formation, faut pas que je la prépare. Mais en tout cas, je peux le faire. D'ailleurs, la formation, elle existe déjà. La feuille de route du podcasteur, elle existe déjà. Enregistrer un podcast à distance, elle existe déjà. Tout ça existe déjà, en fait. Donc, j'ai déjà fait, en fait. Juste que la peur, à un moment donné, me disait, non, tu peux pas le proposer, ça, tu peux pas le faire, il faut que tu aies attendu de faire ça, etc. Et puis, voilà. Donc, c'est la logique. Donc, pour éviter de faire la même erreur, c'est quoi? C'est de te dire qu'en fait, du moment que tu es centré sur ce que tu sais faire, vraiment ce que tu sais faire et sur aider les personnes, et tu vas pas vendre du vide, tu vas pas faire des fausses promesses. J'ai même tendance à penser d'ailleurs qu'on ne fait pas de fausses promesses, parce que plus tu connais un sujet, plus tu sais qu'en fait tu ne sais pas trop de choses sur le sujet, ou qu'il y a des choses que tu pensais avoir savoir et qu'en fait c'est pas si facile que ça, ou c'est pas si automatique que ça, etc. Voilà, il y a tout un tas de mécaniques sous-jacentes. Plus tu sais, plus tu creuses le sujet, plus tu sais qu'en fait, il y a encore trop de choses à apprendre. Hein, ça c'est en fait, hein, c'est le fameux Dunbar, hein, l'effet Dunbar, qui te dit quand t'es débutant, t'as l'impression que tu sais tout en quelque temps. Puis plus tu en apprends, plus tu te rends compte de la côté vertigineux de tout ce que tu dois savoir encore sur la suite que tu pourras apprendre. Et donc ça amplifie aussi la peur, hein, de dire oui, je passe pour un escroc, etc. Ensuite, il y a un autre aspect, c'est de définir la cible à qui tu t'adresses. En fait, la peur de passer, de ne pas être assez bon, etc. Souvent, c'est qu'on ne s'adresse pas à la bonne cible et qu'en fait, on pense qu'on fait des contenus qui sont faits pour des gens qui savent tout, en fait, pour des gens qui s'intéressent autant que nous au sujet, etc. Alors qu'en fait, la plupart des contenus que nous faisons sont faits pour des gens qui sont débutants ou qui sont moins avancés que nous sur le chemin. C'est-à-dire que, je prends un exemple, je peux faire la feuille de route du podcasteur et plutôt une formation qui est faite pour des gens qui débutent dans le podcast, parce que c'est de A à Z comment débuter dans le podcast. Enregistrer un podcast à distance aussi. Mais par exemple, en coaching en podcast, je m'adresserai plutôt à des personnes, certes, il y a des débutants, mais aussi si tu es podcasteur, podcastrice et que tu as envie de passer un cap en disant, je veux monétiser, etc. Tu n'es plus dans le côté débutant, mais tu es dans le côté aller plus loin, monétisation, stratégie pour aller plus loin, etc. Et donc là, en fait, t'as des podcasts et t'as 0 € de monétisation, je t'explique comment moi j'ai passé les premiers caps de la monétisation, qu'est-ce que tu peux faire en monétisation, les formes de monétisation, etc. Et qu'est-ce que j'ai tenté? Comme j'en ai tenté une bonne dizaine de stratégies, je peux t'en donner plein, on peut en discuter, on peut échanger là-dessus et tout. Donc voilà, mais je ne vais pas m'adresser en fait à d'autres podcasteurs pros qui font ça toute leur vie, je vais pas m'adresser à des gens qui sont spécialistes de la radio, du son et tout, qui veulent faire du montage son, je vais pas leur expliquer de faire du montage son, etc. Donc déjà, tu sais, tu t'adresses à des personnes que tu peux aider avec tes connaissances que tu as, etc. Tu leur vends pas du flan, tu peux les aider parce que tu es déjà passé par leurs étapes. Donc déjà, en fait, tu devrais vraiment être rassuré. Donc la peur, déjà, tu vois, tu peux la faire baisser. Et comme tu t'adresses à des gens que tu peux aider avec des sujets que tu connais parfaitement, ta peur de passer, de ne pas être assez bon, disparaît. Ta peur de décevoir disparaît. T'as peur de vendre, bah, elle va disparaître parce que finalement, tu sais que tu ne leur rends pas du vide, donc tu passes pas pour un escroc. Donc, ton ego, il est sauvé. J'ai envie de dire, si tu es dans cette réflexion-là, ton ego est sauvé. Maintenant, il y a une étape quand même qui est importante à garder en tête, c'est que la peur ne se combat pas par la pensée, parce que la pensée ne fait qu'augmenter la peur, et la peur se combat seulement par l'action. Là, je prends ma casquette préparation mentale. En préparation mentale, il y a un truc que l'on sait bien, c'est que plus on réfléchit à un sujet, plus en fait on est capable de voir tout ce qui peut mal se passer, et de perdre de vue que ça peut bien se passer aussi. Et de perdre de vue que peut-être ça ne va pas se passer comme prévu, mais que ça ne veut pas dire que ça se passera forcément mal. Et que si ça se passe mal, on peut avoir des plans pour se dire bah, si ça ne se passe pas aussi bien que j'ai prévu, ou si ça se passe mal, je peux réagir. La question en fait, qui vient avec ça, c'est de se dire finalement, qu'est-ce qui peut m'arriver de mal ? Qu'est-ce qui peut m'arriver de mal si demain, et tu peux te poser cette question, tu poses la feuille, tu prends une feuille, tu dis, qu'est-ce qui peut m'arriver de mal si aujourd'hui je me décidais à lancer un podcast ? Si aujourd'hui je me décidais à lancer un compte Instagram ? Si aujourd'hui je me décidais à lancer des services de coaching ? À mettre en ligne une formation ? À mettre en ligne un programme d'accompagnement avec du coaching, de l'accompagnement, de la formation, etc. Qu'est-ce qui peut m'arriver de mal ? Tu poses là-dessus. Qu'est-ce qui peut m'arriver de mal ? Tu cibles des personnes que tu peux aider. Tu y mets avec ton cœur et tes connaissances. Tu mets ce que tu sais faire, etc. Qu'est-ce qui peut t'arriver de mal ? Tu vends pas. Qu'est-ce qui t'arrive ? T'as perdu peut-être un peu de temps, peut-être un petit peu d'argent d'investissement. Mais si t'as encore un toit sur la tête et que t'as ton boulot à côté pour manger, qu'est-ce qui t'arrive ? Rien. Réellement, il t'arrive rien, en fait, je veux dire. Il t'arrive rien. Tu peux te dire, oui, mais je vais décevoir, etc. et tout. Mais décevoir qui ? En fait, quand tu rentres sur un marché comme ça, quand tu te lances, personne ne t'attend. Si tu lances un podcast aujourd'hui, personne n'attend que tu lances un podcast. Très clairement, on n'est pas connu, personne ne nous connaît. Enfin, à part notre entourage, notre famille, notre entourage, nos collègues. Personne ne t'attend pour lancer un podcast, pour lancer des formations, pour lancer du coaching, pour lancer une chaîne YouTube, un compte Instagram. Personne ne t'attend. Personne n'attend quelque chose de toi non plus. C'est-à-dire que tu peux y aller. Il n'y a pas le monde entier qui va être en train de scruter ce que tu es en train de faire en disant oh, alors attends, il est en train de lancer ça, est-ce que c'est suffisamment bien, etc. Si tu lances ton podcast aujourd'hui, t'as pas voici qui va venir en disant oh là là, telle personne a lancé ça, on s'attendait à un truc super bien, etc. On n'est pas des stars, on n'est pas des personnes connues. C'est-à-dire que oui, si tu prends un acteur, il se met à lancer un contenu sur je sais pas quel sujet, bien sûr qu'il va être attendu au tournant, bien sûr que les médias vont regarder un peu ce qu'il fait, ils vont y avoir des critiques, on a écouté ça pour vous, etc. Mais nous, on n'est pas dans ce cadre-là. Donc personne ne t'attend, personne n'attendra quelque chose de toi de spécial. Tu n'as pas grand-chose à perdre parce que bah, finalement, si tu as ton travail, si tu as de quoi gagner ta vie, et ben que tu veux lancer quelque chose en side project, tu n'as rien à perdre. Finalement, tu vas peut-être perdre quelques heures de travail si jamais tu vas pas au bout. Tu vas perdre un petit peu de temps peut-être avec ta famille. Bon, ça oui, c'est une vraie perte, je suis d'accord avec toi. Mais finalement, c'est pas une perte, je veux dire, de qui te met sur la paille. Ça te met pas, c'est pas une perte qui va te mettre faire dormir sous les ponts. C'est pas une perte qui va t'afficher dans la rue en disant que t'es une personne nulle, à qui il faut pas faire confiance, que t'es nul, que t'es un escroc, quoi que ce soit. Ça t'a pas t'amener en prison, quoi que ce soit. D'accord ? Oui, la perte de temps, on ne récupère jamais le temps. Mais je veux te dire un truc, on ne récupère jamais le temps qu'on aurait passé, par exemple. À faire une heure de podcast plutôt que dormir une heure ou passer une heure à jouer avec tes enfants. Oui, tu récupéreras jamais ce temps, mais en fait il y a un autre temps que tu vas jamais récupérer, c'est le temps que tu prends à procrastiner en disant j'aimerais bien lancer ça, j'aimerais bien lancer ça, j'aimerais bien lancer ça, j'aimerais bien lancer ça, mais en fait je le fais pas. Et ce temps là tu ne le récupéreras jamais. Et ce que je veux te dire en fait, si j'ai raté le coche, c'est ça, c'est que peut-être que si en 2017 j'avais lancé, en même temps que j'ai lancé mon podcast, que je créais la première audience, que je lançais peut-être pas les premiers produits, mais je mettais des formulaires en ligne pour dire voilà, je voudrais développer ça, je sais pas trop quoi faire, sur quoi vous avez besoin d'aide, comment vous pourriez faire, comment est-ce que je pourrais faire, est-ce que vous préférez que je vous accompagne sur du coaching, du consulting, si je faisais une formation en ligne, qu'est-ce que vous en pensez, quel est votre problème principal, quel est le problème qui vous anime dans la création de contenu que vous n'arrivez pas à résoudre. Si j'étais parti avec ces questions-là dès le départ du podcast, j'aurais acquis une connaissance de mes clients potentiels plus importante. Peut-être qu'au lieu d'attendre 2018-2019 pour lancer mes premiers programmes, j'aurais pu les lancer fin 2017. Peut-être que j'aurais pris des baffes parce que les premiers n'auraient pas été bons, mais qu'en multipliant ça régulièrement, eh ben, au moment où je lance ma première formation, c'est-à-dire 18 mois après le lancement de mon premier programme, c'est-à-dire, on va dire, fin 2018, début 2019, j'aurais pu arriver en fin 2018, début 2019, dans ces 18 mois, non pas en ayant lancé qu'un programme et en apprenant à lancer mon premier programme, mais en ayant lancé, en ayant une meilleure connaissance, en ayant lancé un ou deux programmes, trois, quatre, cinq petits programmes, en ayant vu ceux qui marchent, ceux qui marchent pas, en ayant testé différentes choses, etc. Et en fait, ce temps-là d'apprentissage, de connaissance, de test, ben, je peux jamais le récupérer. Et à un moment donné, j'étais obligé de le faire plus tard. C'est-à-dire que j'étais obligé de le faire plus tard. Et je le fais notamment sur la partie sport. Je le fais sur la partie course. J'ai lancé plus de programmes. Je me suis rendu compte, après, avec le temps, j'ai pas la vision du nombre de programmes de formation en ligne que j'ai vendus. Des formations sur la gestion du temps, la formation sur les habitudes, des formations sur le mind mapping, des formations sur l'audience, des formations sur la gestion des mails et tout. J'ai un catalogue de formations qui est beaucoup plus gros que ce que je pensais parce que en fait, bah, je les ai faites et puis j'ai des trucs que j'ai appris. Je me suis rendu compte qu'il y a des domaines qui marchent bien, qui marchent mieux, que si je le fais de telle manière, ça marche mieux, etc. Et c'est quoi en fait? Je l'ai appris par l'action. Et en fait, maintenant, j'ai lancé ma formation, dernier programme là sur courir plus vite. Tout le monde peut courir plus vite, même quand on a 40 ans, quand on commence le début à courir, etc. Qui est vraiment sur ce sujet-là. Ben oui, je me dis, j'espère que le programme est au niveau de ce que je promets, mais j'ai mis tout mon cœur, j'ai mis les méthodes que je partage, ce que je fais, comment je fais, etc. C'est-à-dire que les séances que je partage dedans, c'est la séance que j'ai faite hier en courant, etc. Donc je peux, si des personnes me posent des questions, s'il faut creuser un peu plus le sujet, je peux le faire. S'il y a des personnes qui me demandent des conseils, je peux le faire en complément, etc. Je le fais avec tout mon cœur et tout. Ça marche. Pour moi, ça a marché. Ça peut marcher, je pense, pour beaucoup de gens. Peut-être qu'il y a des gens pour qui ça n'a pas marché, selon des conditions, etc. Et donc là-dessus, comment je le gère? Mais en fait, je me dis que c'est pas de ma faute parce que moi, j'ai vendu du vide, mais parce que peut-être qu'il y a d'autres domaines, parce que voilà, il y a peut-être d'autres explications, et peut-être que les autres explications, en discutant avec les gens, je peux peut-être rajouter des éléments dans mon programme pour l'améliorer. Donc en fait, cette peur-là, en fait, je l'ai enlevée. Comment je l'ai enlevée? Je le répète. La peur ne se combat pas à avoir la pensée, parce que plus tu penses à un sujet, plus la peur grandit. La peur ne se combat que par l'action, que par agir. Et c'est pareil, par exemple, si tu voulais te lancer demain à faire du vélo, je te dis de viser vélo, si tu penses à, par exemple, à te dire je vais faire du vélo, mais il peut se passer ça, 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 tu vas penser tout un tas de choses. Et puis si tu montes sur ton vélo que tu commences à pédaler, bah, tu vas te rendre compte que finalement, il se passe peut-être rien de ce que tu as prévu, ou peut-être des choses que tu n'as pas prévues, mais que tu as su réagir, et que tu vas en tout cas apprendre beaucoup de choses. Donc, conclusion de tout ça, ne fais pas l'erreur que j'ai faite. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as des peurs de te lancer dans quelque chose, si tu te dis, je suis pas assez compétent dans ce domaine-là, alors que ça fait des années que tu travailles sur le sujet, ou que tu es passionné par le sujet, si tu te dis, je vais passer pour un escroc, alors que tu vends quelque chose que tu sais faire, que tu aimes faire, que tu as envie d'aider les gens là-dessus, si tu le vends aux bonnes personnes, c'est-à-dire à des gens qui savent moins de choses que toi, et qui, à côté de ça, ont besoin d'apprendre, ont envie d'apprendre et auraient envie de faire ce que toi tu fais, c'est déjà faire. Si tu mets tout ton cœur là-dedans, tu fais des bons contenus, tu fais tout ça, tu ne passeras pas pour un escroc, tu ne seras pas un vendeur de tapis, tu seras assez bon. Ton ego est sauf, en fait. Et si tu es à côté, tu as de quoi vivre, au moins pendant quelques temps, et que tu as un peu de temps pour développer ça, tu n'as rien à perdre. Personne ne t'attend, tu n'as rien à perdre. Et finalement, qu'est-ce qui peut t'arriver de mal en essayant de faire ça? Pas grand chose. Qu'est-ce qui peut t'arriver de bien? Beaucoup de choses. Donc, moraliser tout ça. Prends toutes tes idées que tu as depuis des mois, des années peut-être, etc. Pose-les très clairement. Dis-toi, voilà, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Et ben, c'est ce que je vais proposer. À qui je vais proposer? Qui ça peut aider? Et qu'est-ce que je vais leur dire que je vais les aider à faire? Comment j'étais dans leur situation à ce moment-là? Comment je suis maintenant et comment je peux les aider à faire ce chemin de ce qu'ils savent faire maintenant ou ce qu'ils ne savent pas faire maintenant à ce que moi je sais faire et ce qu'ils aimeraient faire maintenant. Comment je peux les aider à baliser le chemin avec du contenu en ligne, ce qui peut être un podcast, chaîne YouTube, compte Instagram, du mail, avec des formations, des programmes, etc. Comment tu peux le faire et comment tu peux le faire dès maintenant? Parce que tout le temps que tu vas passer à le faire dès maintenant comme ça, c'est du temps que tu vas gagner pour plus tard. Parce que tout ce que tu apprends à faire maintenant, en fait, va te servir et tu vas le construire. Et peut-être même, peut-être que le premier projet sur lequel tu réfléchis ne marchera pas comme tu veux, mais tout ce que tu auras appris sur ce projet-là, tu pourras le réutiliser pour te lancer dans d'autres projets, pour faire d'autres éléments. Donc, conclusion de tout ça, ne fais pas les mêmes erreurs, ne rate pas le coche, n'attends pas de voir quelqu'un qui débarque un jour en disant, bah tiens, il a fait exactement le podcast que j'aurais voulu créer, il a fait exactement le contenu que j'aurais aimé créer, le livre que j'aurais voulu écrire. Ne te donne pas cette malchance de vivre ce truc-là, en fait. Voilà, j'ai envie de te dire ça, et lance-toi maintenant. Et probablement, tu verras sur ton chemin que quand tu as créé quelque chose, il y aura d'autres personnes qui vont créer quelque chose qui ressemble. Ne le prends pas comme étant quelque chose qui doit te décourager, mais comme un signe que si finalement il y a beaucoup de gens qui veulent proposer la même chose que ce que tu fais, c'est qu'il y a probablement beaucoup de gens qui ont le même problème que ce que tu veux résoudre. Et tu n'es pas forcément la personne la moins bien placée pour le résoudre et que tu as tous les éléments pour le faire. Sur ce, si tu as besoin de discuter de ce sujet-là, si tu as envie d'en discuter, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. N'hésite pas, tu peux mettre un commentaire sur Apple Podcast aussi, sur Spotify, etc. Tu peux venir sur Instagram, sur LinkedIn, en discuter, échanger là-dessus sans aucun problème. Je serais curieux de connaître ton avis sur ce sujet-là, parce que moi, c'est un sujet qui m'a vraiment pourri la vie pendant des années. Et je l'avais dit hein, dans mon dernier journal, parce que j'ai écouté dans des podcasts, j'ai écouté dans des trucs comme ça, j'ai dit, je ferai un épisode vraiment spécifique là-dessus. Parce que je crois que le plus gros frein, tu vois, là, le frein dont je viens de te parler, le faire sauter, ce frein, était pour moi un élément super important. Et que je sais à quel point il m'a pourri la vie, mais je sais aussi à quel point il pourrit la vie de tellement de gens. J'espère, en tout cas, avec cet épisode-là, t'avoir aidé à avancer, à faire avancer ta réflexion sur le sujet, et que tu avances, et que tu continues à avancer, et que surtout, tu sois dans l'action, parce que c'est l'action qui te permet de lutter contre les peurs, mais aussi de répondre à beaucoup des questions que tu te poses là maintenant. Voilà, sur ce, je te souhaite une très 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 belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao ciao!